Au Canada, tu n'auras pas tout, mais ni bon très très rapidement. C'est encore dans les derniers. Unbreakable va pas briser de record au Canada.
C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin.
Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et aujourd'hui, on sort nos patins pour la grande finale. Non pas la grande finale de hockey, mais notre 99e épisode. On se prépare en grand, comme Wayne Gretzky. Donc, j'ai l'as du jeu de société avec moi, Martin Lafrenière de la zone de jeu de société. Comment vas-tu, Martin?
Je vais très bien, merci beaucoup. Toi, Martin, comment vas-tu? Tu me ramènes en arrière là, avec ton introduction.
Ben, Wayne Gretzky, tu nous as parlé de ça la semaine passée. 99, pour nous, les Québécois, les Canadiens, c'est un mythe.
Et c'est un mythe. Écoute, Martin, tu parles tout d'une légende. Tu parles de Wayne Gretzky, qui est probablement un. Et je pense encore. Ben, il y a Mario Lemieux, qui était quand même assez bon aussi. Sidney Crosby, correct. Mais moi, je pense que dans ma vie à moi, Wayne Gretzky, c'est le joueur de hockey qui a le plus marqué ma jeune vie d'amateur de hockey. Et je vais te raconter une histoire. Ben, ça te tente-tu, Martin? Je te
Ben oui,
raconte une
ben
histoire.
oui, vas-y, vas-y.
C'est complètement pas dans les jeux de société, mais c'est pas grave. Dans ma jeunesse, j'étais ami avec un
Wayne
gars que ça.
Gretzky?
Ben non pas avec lui, mais quasiment. Il s'appelle Martin Joyal. J'ai dit salut d'ailleurs, Martin. T'écoutes sûrement pas, mais c'était mon ami de jeunesse. Et puis, bon, moi, j'allais tout le temps chez eux. Puis, on jouait au. Comment t'appelais ça? Comment je pourrais appeler ça? Le hockey genou.
Ah
Lui et
ouais,
moi.
dans le sous-sol.
Dans son sous-sol, on
OK.
avait, dans le fond, il y avait un grand sous-sol. On se faisait une balle de papier. Okay? On roulait une balle de papier. On l'entourait d'un genre de ruban adhésif gris qu'on appelle un bon duct tape en bon
Un duct
français.
tape, ben oui.
Puis là, on essaie de la compacter le plus possible. Puis, tous les vendredis soirs, on se faisait des parties de hockey. Puis, on avait une ligne au centre. C'était du tapis. Là, en passant, c'était pas du béton. C'était du tapis qu'il y avait dans son sous-sol.
C'est
Et
moins
là,
dur pour les genoux.
on se mettait à quatre pattes. Il y avait une ligne au centre. Puis, écoute, Martin, je t'en parle. J'en ai des frissons. J'ai tellement joué à ça. Puis, on jouait au hockey, genoux. Puis, on s'était fait des buts. Puis, il y avait comme une hauteur. On avait une saison. Puis, écoute, on faisait énormément de bruit. Et je me souviens que Papa Joyal tripait pas trop quand on
J'imagine.
jouait.
Puis ça faisait-tu des marques sur les murs, ça?
Non, ben non, parce que c'est une boule de papier, ben c'était pas si
Ouais,
pire,
mais une duct
mais
tape.
ouais, mais duct tape, ça fait pas. Non, non, on frappait pas assez fort pour ça, Martin, quand même.
Ah, OK.
Mais c'était le fun, c'était vraiment. Et pendant l'hiver, lui et moi, on était tout seul, puis on allait à l'extérieur. On avait un but de hockey, puis un équipement de gardien de but. Et là, si tu vois, il y a un lien avec Wayne Gretzky, là.
Ouais, ça, je le cherche.
On jouait au hockey. Lui, il y avait comme un attaquant, puis un gardien de but. Puis on faisait des matchs de hockey, puis on prenait les points et les statistiques. Genre Wayne Gretzky, puis là, on faisait OK, Wayne Gretzky fait une passe à Paul Coffey. Paul Coffey tire, et c'est le but! Puis là, on mettait vraiment des statistiques. Et ce qui est drôle, c'est que Wayne Gretzky, c'était le meneur. C'est lui qui faisait le plus de buts. C'était comme, même dans le monde imaginaire, il faisait en sorte qu'on était meilleur quand on était Wayne Gretzky.
Incroyable. On avait
C'était.
le même principe, nous autres, mais tu sais, avec les jeux de table, tu sais,
Oui.
les espèces de petits bonhommes là, que, en deux dimensions, donc on jouait avec notre. Je ne sais pas, c'est un nom, ça. On avait une ligue.
Hockey sur table.
OK, sur table, ouais, c'est ça.
Oui.
Puis, effectivement, on avait des. Puis, tu sais, ils étaient tous pareils, mais nous autres, on les avait tous. Chacun avec leur propre nom, à chaque leur position. Puis effectivement, on avait des statistiques de ligue, à savoir qui compte quoi. Fait que on se prenait très au sérieux pour quelque chose qui ne l'était pas du tout, mais c'était tellement le fun.
D'ailleurs, on vient de fêter les 93, le 30e anniversaire de la dernière Coupe Stanley des Canadiens de Montréal. Ça fait pas tellement longtemps.
On va-tu avoir un autre 30 ans avant d'en avoir une?
Bon, 40, 50, 60 ans, j'ai l'impression. Malheureusement,
Oh!
le hockey au Canada, ça fonctionne plus. D'ailleurs, les deux équipes, probablement qu'au moment où on se parle, la Coupe Stanley était probablement gagnée par les Golden Knights de Las Vegas.
Équipe ça... d'expansion en plus.
Ouais. Oui, puis qui est dans le désert. C'est quoi cette histoire-là, Colin?
Ouais, mais tout est permis à Vegas. Tout est. Chaque rêve peut s'accomplir.
Oh, je sais bien, Martin, mais quand même. Mais il n'y a plus d'équipe canadienne, malheureusement, qui perce pour les finales de la Coupe Stanley. Je trouve ça dommage. Mais bon, c'est que notre 99e épisode aujourd'hui, Martin, 99.
C'est incroyable, vraiment incroyable. 99 en un temps record. On termine notre troisième saison. Je ne sais pas trop, c'est parce qu'on a eu des demi-saisons.
On est au milieu.
Ouais, on n'a pas tous eu la même longueur de saison. Mais bref, Martin, on a fait une petite rencontre au début de notre épisode de savoir qu'est-ce qu'on planifiait pour cette fameuse 100e épisode.
Oui.
On avait plein d'idées et on a retenu la plus facile.
Oui, bien, il faut quand même juste dire que moi, présentement, je suis dans ma fin d'année scolaire. C'est juste que le 100e épisode ne tombe pas au bon moment. C'était tombé en plein milieu du mois d'août ou au milieu du mois de juillet. Je pense que j'aurais moins plus de temps pour préparer quelque chose parce que, bon, tu sais, j'aurais été en vacances. Et là, je suis comme à la fin de mon année scolaire et là, je suis dans la grande production de vidéos, mais pas pour ma chaîne, pour l'école. Donc, je te dirais, occupé de mur à mur. Fait que c'était difficile, je pense, pour moi puis aussi pour toi de vraiment se lancer dans... C'est parce que, bon, moi, mon rêve, ce serait qu'on fasse une rétrospective de nos épisodes puis qu'on sorte les meilleurs moments. Mais réécouter 100 épisodes, c'est long.
Et nos épisodes sont assez longs, merci aussi.
Exactement, fait que c'est difficile. Donc, on a décidé d'aller pour la plus facile, mais qu'on a fait une fois à date.
Oui.
Puis qu'on va retenter l'expérience. Martin, alors qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine exactement?
On va avoir besoin de vous pour collaborer à l'épisode, parce que imaginez-vous qu'on va faire ça en live.
Oui.
Donc, c'est un épisode... Questions-réponses dans la grande partie, mais on va en profiter pour partager nos expériences, vous parler aussi un petit peu des dessous de l'enregistrement du podcast, comment ça se passe. Oui. Donc, on va essayer de sortir un petit peu de nos habitudes. Et pour ça, ben, si vous êtes présent, ben, vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous voulez et sans filtre, on va vous répondre. Alors, Martin, oui. On fait ça quand?
Ben là, Martin, je ne sais pas, veux-tu vraiment qu'on annonce une date officielle, là?
Ben, on va tenir ça, comme à l'habitude, les vendredis.
Oui.
Donc, on s'enligne pour faire ça vendredi de la semaine prochaine. Il faut juste trouver le bon créneau horaire pour pouvoir adapter, pour que tout le monde soit présent. C'est sûr que nous, au Québec, c'est la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Il y en a qui vont être en congé. Moi-même, ça se peut que je sois en congé au chalet. Donc, ça va être probablement quelque part dans l'après-midi pour autant être possible d'avoir des abonnés du Québec que de la France ou de l'Europe pour nous écouter. Mais on va vous préciser exactement le créneau horaire puis l'emplacement sur la page Facebook de l'autre côté du plateau. Donc, restez à l'affût pour avoir tous les détails de ce fameux 100e épisode.
Oui, parce que moi aussi, il faut que je sois juste sûr. Parce que moi, je pars en congé cette journée-là. Mais il faut que je sois juste sûr qu'à mon école, je n'ai pas de rencontre spécifique. Mais si on est capable, effectivement, on va faire ça en après-midi. Mais le podcast va quand même être disponible audio, là. Donc, si vous ne pouvez pas être là live, ne vous en faites pas, il va être audio. Mais c'est toujours le fun des fois d'interagir avec les gens. Puis, on va faire ça sur Facebook Live. Donc, c'est sur Facebook que nous allons faire cette présentation-là. Et si vous ne pouvez pas vous rendre sur Facebook, ne vous en faites pas. On va être là probablement le jour même ou le surlendemain. On va être en version audio.
Exact. C'est sûr que là, attendez-les pas à minuit et une, ça sera pas encore là. Mais on ne saurait tarder de vous mettre ça disponible en ligne. Martin, 100 épisodes, c'est pas rien. Hein?
Écoute, je vais faire quand même le préambule pour dire que je pense qu'on est deux fous de faire ça, de faire un épisode par semaine avec quelques petites semaines de congé pendant l'été et pendant le temps des fêtes. Puis qu'on réussisse quand même encore à le faire et d'avoir plein de choses à se dire. ça a été un défi, ça a été un plus grand défi, je te dirais, cette année, surtout en début d'année pour moi. Là, on dirait que ça, j'ai eu un léger ralentissement au niveau, à un moment donné, bon, moi j'appelle ça, on pourra en parler éventuellement, le burn-out des jeux de société, ou apprendre des règles, jouer. Mais là, c'est revenu en force, je te dirais, Martin. J'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer David Couteau dimanche.
Chanceux.
Oui, il est venu chez moi pour revenir chercher les plus ou moins 6 000 $ de prix qu'il va offrir aux Meeple Olympiades qui vont avoir lieu demain à Sorel-Tracy. Que d'ailleurs, Stéphane et moi, nous allons y être pour jouer des parties. Donc, c'est une compétition qui va se passer au cégep de Sorel-Tracy. Mais là, il restait 7 billets quand on s'est vus dimanche dernier. Pour la partie là, jeu de société casual, là, pas pour la compétition. En tout cas, vous pouvez toujours poser des questions à David, voir ces dernières minutes, il en reste. Mais il y a beaucoup de prix, puis il est venu justement chez moi pour venir chercher, pour vider mon backstore. Puis, je suis toujours ébloui, puis lui, je pense aussi, il était très impressionné de voir la quantité de jeux qui sortaient de là. Et des fois, des jeux que je dis, moi, ça, j'y ai pas joué, malheureusement. Ben, t'sais, on n'a pas le choix de faire de la place. Moi, j'en ai plus chez moi. Puis après ça, on s'est installé pour jouer. Puis Martin, on a joué dans notre après-midi 4, 5, 6, 7, 8 parties.
Ben là, des petites parties, j'imagine, parce que.
Ben, on a joué. Parce qu'il y a certains titres que je te reviendrai sûrement la semaine prochaine, mais on a joué à Keep the Heroes Out.
Oui, que tu connaissais parce que ça, tu en as déjà parlé.
Que j'avais toujours joué en solo. Donc là, on a eu la chance de jouer à deux et à trois joueurs. Parce qu'Hélène s'est jointe à nous pour trois de nos quatre parties. Et c'est un jeu qui n'est pas faisable. Donc, juste à dire que le premier scénario, on n'a jamais été capable de passer au travers.
Mais là, je l'ai fait, moi.
Mais tu dois avoir eu une erreur de règle, Martin.
Facile. Ouais,
puis on a essayé, là, on a changé nos stratégies, on a changé les bonhommes. J'ai essayé le dragon, on a joué avec les globes, on les a tous essayés, puis on n'a jamais. Bref, ça va toujours. Le plus loin qu'on s'est rendu, c'est le début de la deuxième vague. Mais on jouait la difficulté médium et non la difficulté la plus facile. Ah. C'est un genre de jeu que. Tout va bien, puis à un moment donné, bang, tout va mal.
Oui, mais je t'avais dit, moi, j'étais en contrôle de la partie, puis c'est le genre de jeu qui peut finir sur une carte. Tu as l'impression d'avoir complètement le contrôle, puis à un moment donné, pouf, ça dérape.
Exact, parce que tu oublies deux petits héros en haut, là, cette pièce-là s'active, là, tout déboule. Puis tu viens de perdre ta partie. Mais c'est très bon. Je continue à le dire, malgré la difficulté, malgré qu'Hélène a fini en disant, bon, moi, je joue pas le jeu. Elle dit, c'est pas faisable. Fait que Hélène a de la difficulté avec des jeux qu'elle sent que c'est pas faisable. Moi, au contraire, moi, j'aime le défi de me dire qu'un jour, je vais réussir à l'avoir.
Ça, c'est parce que tu es habitué de perdre.
C'est vrai, Martin, et ça a le bon côté que je suis quand même heureux quand je joue à des jeux de société et que je perds.
Exact.
Fait que. On a joué à Revive, j'ai essayé Revive.
Oh, là, j'ai un peu de jalousie, j'ai hâte que tu nous en parles.
On a joué à deux joueurs.
Et il connaissait ou tu vous l'avez...
Il avait déjà joué. Et moi, j'avais lu les règles la veille. Puis c'est drôle comment, quand tu as les règles en tête et que quelqu'un te l'explique, écoute, on a été capable de jouer rapidement. Revive, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est un jeu qui a un buzz incroyable. C'est un jeu euro avec un thème, ben, je ne dirais pas ridicule, mais admettons que le thème est weird, là, mais c'est du monde qui se réveille, ben, pas qui se réveille, on est dans le fond de la Terre ou d'une planète quelconque, là, puis on est des genres d'humains, en tout cas, je ne peux même pas t'expliquer l'histoire exactement, mais on sort d'un trou, puis on essaie de remettre la vie sur la planète en faisant des explorations. Il y a un système intéressant de deck building. Et le concept des actions, c'est très simple, c'est que tu joues des cartes, tu ramasses des ressources, puis après ça, tu actives, tu vas soit mettre de la population, soit bâtir des bâtiments, bon, ben, etc. Puis tu as, ce qui est très caractéristique dans le jeu de Revive, c'est le fait que tu as un plateau personnel qui est une piste de technologie à trois couleurs, et cette piste-là va te permettre de débloquer des modules. Je vous en parlerai plus en détail. Probablement la semaine prochaine, parce que j'ai aussi y rejouer probablement cette semaine. Mais je vais finir en te disant, Martin, que c'est un très bon jeu. J'ai eu bien du fun. Mais je ne comprends pas le hype.
OK.
C'est le genre de jeu que tu joues, puis tu fais comme, c'est bon. Mais j'ai déjà vu ça, là. C'est pas un jeu qui réinvente. Puis là, David me dit, c'est un hype de convention. Puis il n'y a peut-être pas tort. Tu sais, des fois, dans des conventions, il y a un jeu qui sort, tout le monde capote là-dessus, puis là, ça fait comme boule de neige.
Ben, parce que tu sais, dans les conventions, la plupart du monde qui capote, c'est du monde qui ne connaisse pas le jeu. Parce qu'il arrive, il est nouveau, il est frais. Donc, lui, effectivement, ça, il y a un hype qui s'est construit. Est-ce que c'est du marketing bien fait à ce moment-là? Est-ce que le jeu. Bon,
il est
ça
beau.
prend. Ça, oui, il est excessivement beau. Moi, j'ai tout déballé, j'ai regardé les plateaux, triple épaisseur, et tout ça. Tu te dis, mon Dieu, OK, c'est intéressant. Déjà, c'est invitant.
Oui.
Parce que c'est bon, mais on aura la chance d'en parler la semaine prochaine.
Mais je veux pas que les gens aient la mauvaise idée. C'est très bon, là. J'ai adoré ça, mais tu sais. Des fois, tu t'attends parce que le monde tripait là, sur les médias sociaux. Le monde
Ouais.
disait « Oh, c'est super bon ce jeu-là. » Puis là, j'ai joué, j'ai fait comme « c'est une belle qualité de jeu, mais c'est un jeu euro. » Là. Dire, c'est rien qui... Puis il y a une affaire que David m'a avoué, là, que j'avoue, puis j'avoue que c'est pas super, c'est que le jeu de base, c'est un jeu qui est correct, mais tu as une campagne qui va débloquer,
Oui.
dans le fond, le jeu. Parce que
Oui,
le
parce
jeu, le jeu, quand tu l'ouvres, là, il y a une version très simple. Et plus ça avance, plus ça va le complexifier. Puis là, David, il dit, mais pourquoi avoir caché ça dans une campagne?
ouais, peut-être pour rendre le jeu moins intimidant dans tes premières parties, mais c'était la première fois que je voyais un punch board qui était marqué ne pas dépuncher.
Oui, c'est vrai. Il est rouge.
Ouais, c'est ça. Ne pas dépuncher. Je dis, OK, bon, on va débloquer des punchboards. Parfait.
Ben, puis quand on finit la première, parce qu'on le joue en campagne, enfin, on a fait la première partie. La première partie, c'est jouer. OK? Là, quand tu finis la première partie, tu lis l'histoire, puis tu n'es aucunement intéressé par l'histoire. Puis après ça, c'est écrit, OK, ben maintenant, le petit switch, là, parce qu'il y a un petit switch dans ce jeu-là qu'on peut activer une fois dans notre tour qui nous donne une ressource au choix. Mais là, la petite switch, elle va servir à quelque chose de plus.
OK.
Et là, la petite switch, elle devient beaucoup plus le fun. Tu sais, au début, la petite switch fait comme, hé, hey, oh, c'est plate en tabarnouche, ta switch. Tu sais, ça donne juste une ressource. Là, c'est, ah, oh, OK, pourquoi ne pas l'avoir mis dans la première partie? OK. En tout cas, bref.
Ben,
On a...
il y en a de plus en plus des jeux comme ça. Je t'en parlerai d'un autre la semaine prochaine, là, qui est un petit roll and write de Ryan Knizia, qui, à chaque partie, justement, additionne une règle additionnelle. Puis à un moment donné, ben. Là, c'est des parties très courtes, fait que ça va, mais faire ça sur une partie longue, je ne sais pas combien de temps là, revivre, mais ça doit être au moins 1 heure et demie. Là. C'est peut-être, tu n'en feras pas 12 de suite. Là.
Non, c'est sûr. À deux joueurs, ça joue quand même assez rapidement. Ça me fait penser à This War of Mine. Souviens-toi, Martin, This War of Mine, il avait caché des règles dans le livret de l'histoire.
Oui.
Puis que quand, mettons, tu ne te souvenais plus de la règle, bien là, il fallait que tu retrouves ça dans le livre d'histoire parce qu'il n'avait pas fait un livret à part avec toutes tes règles.
Ouais.
Ça n'avait pas été
Raison,
un
t'as
succès,
raison,
ça.
t'as raison. Je trouvais brillant l'idée de dire, ah, maintenant, ton personnage a atteint de l'expérience, alors à partir de maintenant, tel objet ou telle pièce a telle fonction de plus. Ça, c'est cool, mais t'as raison que c'est pas dans le livre de règles.
Non, puis je ne sais pas s'ils l'ont arrangé avec la deuxième édition.
Ah, je vais t'en parler d'une deuxième édition. Continue.
Oh, OK. Et deux derniers jeux qu'on a joués, on a joué, voyons, sur les traces de Darwin,
OK.
parce que David n'avait jamais joué. D'ailleurs, c'est drôle parce que David,
Il a fait sa vidéo.
le lendemain, sortait sa vidéo parce qu'il a adoré son expérience avec moi. On a joué deux parties que j'ai gagnées les deux, d'ailleurs. Donc,
Et c'est rare.
je n'ai pas encore, je suis invaincu à ce
Darwin.
jeu-là. Puis c'est encore très, très cool, ce jeu-là. Puis il a été très impressionné par la qualité du matériel. Et j'avoue que la qualité du matériel est vraiment très cool. Et finalement, le soir, on a terminé avec un classique. On a joué à Clank Catacomb. Le classique, c'est Clank Catacomb, c'est le nouveau, qui n'a toujours pas été traduit en français. Et David m'expliquait que. Avant, c'était Renegade Game Studio qui avait
Oui,
Renegade Game France
c'est vrai.
qui faisait la traduction. Et là, maintenant que c'est la compagnie qui s'appelle Dire Wolf, ils n'ont pas de relation encore pour le côté francophone. Alors, il faudrait qu'une compagnie le ramasse parce que Clank Catacomb, c'est selon moi et David, ben. Je pense que c'est le meilleur des clans, même si toutes les clans sont le fun, là, celui-là, on a encore eu tellement de plaisir à y jouer. Ça a été une belle partie et c'est une belle, mais toujours pas en français, en espérant qu'il le devienne très bientôt. Martin, je te mets sur le dossier.
Ben, c'est intéressant à savoir, effectivement. Moi, j'attendais la version française avant de me le procurer en me disant, bon, je suis pas ultra rushé d'avoir des jeux, là, t'sais, on en a beaucoup à essayer. Puis, Clank, je connais déjà la mécanique, mais je trouvais ça intéressant d'ajouter cette. Tu m'en avais parlé en bien, donc je voulais
Ah oui.
vraiment avoir la version. Mais là, je vais mettre sur le dossier. Merci de l'info. Ben, d'après moi, il y a déjà quelqu'un qui doit déjà piloter ce dossier-là.
J'espère, parce que c'est un excellent jeu. Mais tout ça pour te dire qu'on a une belle journée remplie de jeux. Probablement que mon samedi prochain va être rempli de jeux avec des abonnés. Peut-être que je vais avoir la chance de vous rencontrer demain au Meeple Olympiade à Sorel-Tracy. Vous viendrez me voir. Puis si on a le temps, bon, on se jouera une petite partie ou deux, Martin, avec des abonnés, si des abonnés et des auditeurs de notre podcast.
Là, je vous avertis tout de suite, Martin Lafrenière est timide. Fait vous devez aller vers lui, puis lui arracher une partie. Il va le faire avec plaisir, mais faut foncer. N'hésitez pas à aller le voir. Il a de l'air intimidant comme ça, là, mais il est fort, fort sympathique.
Moi, je ne suis pas intimidant par toi. Je suis un nobody. Je suis un nobody, mais sans faire, venez me voir parce que Martin a raison. Je suis un peu timide en société. Fait que, mais mon ami Stéphane va être là, puis lui, il n'a aucun problème en société. Fait que, dans ce temps-là, ça va être plus facile l'approche.
J'allais dire c'est là le problème, mais bon. Salut Stéphane.
Salut. Nous écoutes-tu, Stéphane? Tu nous écoutes-tu? Je te mets un petit défi, Martin. Martin, oui, Stéphane, écoute-nous.
Tu as levé un point tantôt parce que là, on est vraiment dans la phase B. Hein. On ne fait pas
Oui.
nos expériences ludiques, mais tu es parti avec tes expériences. Puis
Oui.
ben, je dois te partager celle que je viens de faire ce soir. Pas plus tard que à
Hein?
l'instant même qu'on. C'est pour ça qu'on le fait un petit peu plus tard, c'est parce que mes invités sont partis.
Ah, ben oui, on est mardi. On enregistre ça le mardi.
Exact. J'avais d'installer et de préparer une partie d'Isofarian Guard avec Stéphane pour continuer notre aventure à deux. J'étais hyper primé à le faire. Mais à la dernière minute, s'est ajouté une troisième personne. Fait que je dis, bon, ça ne sera pas celui-là ce soir.
Non.
Et ça fait quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait du Donjon Dragon pendant des années plus jeune. Puis ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Donc j'ai dit, bon, on va
Oh.
ressortir un jeu fantasy. Je sais qu'il aime ça. Et il y a une campagne que je t'avais fait découvrir, même que tu as découvert avant moi, avec mon jeu que tu as racheté par après. Et moi, j'avais commencé l'aventure et là, on voulait la recommencer. Et là, je dis ça serait le bon timing avec lui. Alors, on a ressorti Chronicle of Dunagar,
Ah oui,
Age of
OK.
Darkness. Et là, Martin, je me suis aperçu de quoi? Puis,
Quoi?
c'est la première fois que je vois ça d'un jeu. Chronicle of Dunagar, moi, j'ai la première campagne. Tu as joué à
Oui.
cette campagne-là. Toi, tu as
Oui.
backé la deuxième campagne, qui est une version. Un reprint, mais qu'on a dit version 1.5 améliorée
Avec
avec
un
des
livre de
extensions.
règles. Oui, c'est ça, un livre de règles qui ont changé, semble-t-il.
Oui, je pensais que ce n'était que ça. Et là, Stéphane, il s'est downloadé l'application Foreteller.
Ouais.
On a commencé à jouer et il n'y a rien de pareil. Rien, rien, rien de pareil.
Mais
Le
voyons.
setup de base est le même, les personnages, tout ça sont les mêmes, mais. Le texte est changé, l'histoire est changée, il y a les embranchements sont pas les mêmes, on a des skills check à faire, les rewards sont pas en même place, c'est pas la même affaire, c'est complètement deux jeux différents.
Mais voyons donc.
J'ai été vraiment surpris. On essayait de faire le parallèle entre l'histoire, le livre d'histoire puis Foreteller. Là, on a dit il y a un problème. Est-ce que c'est l'application qui est en problème? Parce que les titres n'étaient pas les mêmes noms. Il n'y avait pas la même signification. Bref, on a fouillé, puis finalement, on s'est aperçu qu'ils ont refait complètement le jeu.
Ah ouais, attends un peu. Il me semble que je me
Ben, je dis
souviens pas.
complètement, l'histoire est la même. Je pense que les scénarios sont similaires en termes de personnages, en termes de. Puis ils ont travaillé un peu les règles, mais tout le Foreteller ne raconte pas l'histoire qui était écrite dans le livre.
Dans ton livre que toi tu as.
Exactement.
OK. Ah ben
De façon
c'est.
significativement différente. Puis même, ce que je te dis, ce qui est bizarre, c'est que même quand tu as fini l'aventure, dans mon livre, ça va me dire, vous avez gagné telle récompense. Puis dans ta version à toi, c'est complètement d'autre chose.
OK, ben, mon Dieu, c'est quand même assez surprenant. Je
Ben,
m'attendais pas à ça du
moi
tout.
non plus. Moi non plus, tu sais, les versions 1.5 ou améliorées, on les voit où ce qu'on on va souvent clarifier des règles ou modifier une règle qui balance le jeu, là. Ça va. Mais que l'histoire soit complètement changée, c'est une première.
OK, bon, ben écoute, bon, je suis content que ça ne m'affecte pas parce que j'ai la deuxième édition, l'édition 1.5. OK, ben écoute, je savais qu'il avait fait des petites modifications parce que je sais que les gens qui l'avaient pris dans la première édition, tu pouvais juste prendre, dans le fond, les livres qui ont changé dans la deuxième édition. Je pense que tu pouvais le faire. Donc, c'est ça que j'ai comme compris. OK, mais là, je suis en train de voir sur
Je ne
BoardGameGeek.
l'ai pas fait, mais je pense que je n'aurai pas le choix de le faire. Mais
Sur
là, on risque d'être légendaire.
BoardGameGeek, il semble avoir, Martin, un genre de post où il t'indique qu'est-ce que les choses ont changé pour que tu puisses le suivre
Ouais.
avec ton Foreteller, mais ça a l'air tellement compliqué qu'il était aussi bien de te prendre des livres.
C'est ce que ça me dit. Aïe, aïe, aïe. Fait que,
OK.
ça a été une expérience. Un, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué. Deux, on a refait le scénario de base depuis le début. Fait que pour essayer de. Bon. Ça a été une soirée en dents de scie, mais ça va me permettre de me relancer dans l'aventure et de repartir. Mais là, je ne sais pas si je pars avec la version que j'ai sur papier ou j'utilise le Foreteller en espérant que je n'échappe pas parce qu'il va y avoir peut-être des choses que je n'aurai pas dans mon livre de base à moi. Fait que je suis encore ambigu, là.
Parce que tu pourrais juste utiliser ton livre, ça serait correct, là.
Oui, mais on a été téléchargé les Foreteller pour
C'est ça.
justement bonifier l'expérience. Fait que là,
Tu deviens accro à Foreteller, c'est ça, je comprends, là.
ben forcément, ça ajoute tellement à une partie, c'est pas pareil.
Ça, tu as tout à fait raison. Je pense que ça prouve à quel point, justement, c'est tellement agréable. Mais là, si je comprends bien, Martin, vous vous êtes installé à soir pour jouer à Chronicle of Dunagar sans que tu aies regardé les règles avant. Ah, puis ça
Non,
fait à
mais
peu
j'avais.
près un an que tu as joué. Oui, mais quand même, ça fait un an que tu as joué.
Oui.
Tu as sorti ça, puis tu as fait comme OK, on joue à ça à soir, sans t'être replongé,
Improviser.
improvisé.
Improviser. Ouais.
Tu n'as pas choisi le jeu le plus facile pour
Non.
rentrer dans. Parce
Non.
que Dranagore, c'est super bon, mais hé, Colin, qu'il est fiddly un petit peu.
Oui, il y a beaucoup de particularités. J'ai une bonne mémoire, là. Je me rappelais de l'essentiel du jeu, mais c'est sûr qu'à chaque fois, on se dit, OK, là, qu'est-ce qui arrive? Le Darkness est là, lui est en haut, il y a un étage de plus,
Ouais.
ça fait combien de différences? Fait que souvent, ben oui, on retournait dans le livre de règles. Mais on s'était dit, on va se remettre à jour pour être capable la semaine prochaine ou dans 2 semaines de repartir l'aventure comme il faut. Puis c'est pour ça qu'on a refait, dans le fond, le tutoriel. Mais non, c'était pas facile. C'était pas facile.
Écoute, tu m'en parles, puis j'ai hâte d'y rejouer. Je veux finir de peindre mes figurines là, pour m'y remettre, là, parce que c'est un excellent, excellent jeu, Chronicle of Dunagore.
Bon, ça dépend si c'est le premier ou le 1.5, là, mais choisissez une des deux versions.
Bon, moi j'ai le 1.5, fait que je pense que j'ai le meilleur des deux. Et on devrait recevoir d'ici la fin de l'année l'extension que je ne me souviens plus de son nom. De toute façon, il y a tellement d'extensions que je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je n'ai toujours pas passé à travers la campagne de base.
Non, parce que, puis même là, je pense pas que. En tout cas, moi, j'ai pas pris d'extension. Avec la tonne de jeux que j'ai, je pense que la boîte de base va me suffire amplement.
Ben moi, ça venait avec mon pledge.
Ouais, ouais,
Ben,
ouais.
ça venait avec mon pledge. J'avais besoin. En tout cas, j'en avais pas besoin. J'ai pris pareil. C'est comme ça. Comme ça qu'on est. Mais Martin, tu sais qu'on n'a toujours pas dit c'était quoi notre sujet aujourd'hui.
J'ai-tu le droit de me donner la parenthèse avant?
Ben, puis j'en ai d'autres, moi, fait que vas-y.
Je t'ai dit hier qu'on tournait, on faisait pas l'enregistrement parce que je voulais que je me prépare.
Oui.
Mais c'était pas l'émission que je préparais finalement, c'était mon entrevue parce que j'ai été contacté par un journaliste du Soleil, donc un
Oh,
quotidien
de
de
Québec.
Québec, exactement, qui prépare un article sur les jeux solo. Et
Hein?
il voulait avoir un avis d'expert, alors il a communiqué avec moi et j'étais en entrevue ce matin avec lui. Donc ça va sortir au courant du mois de juillet, un petit article dans le journal
Le
sur les jeux
soleil.
solo. Mais c'est le fun de voir que. Ça intéresse même le grand public maintenant. Alors,
J'ai
j'ai hâte de voir.
hâte de voir cet article-là parce qu'effectivement, le jeu solo et le jeu de société pour le monde, pour monsieur. À chaque fois, tu sais, je le redis encore, je sais qu'on l'a déjà dit, mais À chaque fois que je dis à mes collègues de travail qui ne sont pas des joueurs et qui pour eux autres jouent à un jeu de société, c'est jouer à Monopoly. Quand je leur dis que je joue à un jeu, puis là, il fait comment? Ouais, tu vois tes amis souvent. Non, non, je joue tout seul. Et la face qu'ils font, là, c'est genre, pour eux autres, c'est un concept qui n'existe pas. Ça ne peut pas exister de jouer à un jeu de société en solo. Donc oui, j'ai dit oui, mon ami Martin Montreuil a fait une version solo de Monopoly. D'ailleurs, on l'attend toujours, les règles.
Oui, ben c'est peut-être notre spécial 100e épisode, on verra.
Mais j'aimerais vraiment beaucoup que tu fasses sur les traces de Darwin.
Ah oui, il est tellement facile à faire. Je comprends pas qu'il n'ait pas déjà pensé à ça dès le départ.
Parce que, hey, ben, honnêtement, ça serait aussi niaiseux que d'avoir deux dés, puis tu lances un dé, puis tu avances de trois, puis là, tu enlèves le troisième. Ça pourrait juste être ça, tu sais, dans le fond, pour faire quelque chose d'aléatoire, là.
Ouais, c'est pas les plus agréables à jouer, Marc.
Non, mais parce que moi, j'arrêtais pas de dire au monde, ouais, je vais faire bientôt ma vidéo solo du jeu. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais il n'y a pas de
il y en
solo.
a pas.
Là, je suis comme, ah, c'est vrai, c'est parce que quand on a eu notre fin de semaine, tu m'avais parlé que tu voulais peut-être faire une version solo. Fait que moi, dans ma tête, elle existait. Fait que si
Tu
tu
vois,
vois.
quand Martin le dit, c'est que ça existe déjà, c'est ça?
C'est, ben, en tout cas, ça rentre dans ma tête.
Incroyable.
OK, ben, tu es une sommité du solo et une sommité du jeu de société et tu te ramasses dans la presse, là, le soleil. Waouh!
J'en ai profité pour plugger le podcast de l'autre côté du plateau en disant que notre épisode numéro 2 était consacré justement au jeu solo et ça fait longtemps de ça, Martin, parce qu'on est rendu à 99. Mais j'ai été le réécouter au complet et c'était encore très d'actualité ce qu'on disait.
On était-tu bon?
Étonnamment, oui.
C'est des fois, quand on réécoute nos premiers épisodes, on fait comme oh! Hey!
Ouais, mais on a quand même, toi et moi, 5-6 ans d'expérience de chaîne YouTube avant d'entreprendre le podcast. Donc, je pense que ça paraît.
Je vais fêter mon 7e anniversaire de ma chaîne dans quelques semaines. Imagine-toi, 7 ans déjà. Je parlais de ça avec David parce qu'il a fait ma zone du dimanche. Excuse-moi, mon dimanche geek, je me trompe tout le temps. Mon dimanche geek avec moi, puis on parlait de ça, qu'on est rendu des vieux de la vieille dans le monde de YouTube. C'est pour ça que les chiffres stagnent. Bon, et je vais finir, parce qu'on est vieux, je vais finir avec ma... J'appellerai pas ça une controverse de la semaine, parce que je suis pas fâché. Je suis vraiment pas fâché, mais je sais pas si vous m'avez entendu ma belle chanson du début de l'épisode. Ça faisait longtemps que j'attendais des retours pour le jeu Too Many Bones Unbreakable, l'extension, dans le fond, qui est la standalone expansion de Too Many Bones, qui va être la dernière. Depuis qu'on a joué notre partie ensemble, Martin, ça m'a revigoré sur le concept de Too Many Bones. Puis j'attends juste d'avoir du temps pour pouvoir m'y replonger, même sur ma chaîne.
C'est pareil pour moi, Martin. Depuis qu'on y a joué, j'ai ressorti ma boîte, puis je n'ai que l'envie de retourner jouer.
Oui.
C'est bizarre. Hein? Ça m'est jamais. C'est rare que ça m'arrive avec un jeu, mais là, c'est comme si toute notre aventure s'était bien passée, puis on est comme. Ça a fini en queue de poisson, et là, je me suis dit, merde, il faut que j'y retourne, parce que c'est pas vrai que je vais laisser ça de même en plan. Fait que j'ai vraiment hâte d'y retourner.
Et d'ailleurs, j'ai bien aimé jouer en français. Hein. Je veux juste te dire, je suis habitué de jouer en anglais, là, mais en français, enfin, tu sais, parce que des fois, l'histoire est un peu dure à suivre dans Too Many Bones. Mais là, c'était plus simple. Mais juste pour te dire que Unbreakable, bon, tout se passe bien partout dans le monde. Parce que Chapter Games sont lents un petit peu ces temps-ci à nous donner des mises à jour. Et j'aurais aimé avoir des mises à jour plus. Mettons à la semaine plutôt que d'avoir une mise à jour au mois, là, comme ils font présentement. Parce que, tu sais, on sait que tout le monde en Europe a commencé à recevoir leur Too Many Bones Unbreakable. Aux États-Unis, ils disent tout va super bien. Il en reste 2100 à shipper. Bon, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a eu, je pense qu'il y en a eu énormément. Puis là, on arrive au Canada. Puis c'est parce que c'est quasiment comme un disque qui saute.
C'est un running gag.
C'est parce que, honnêtement, c'est quelque chose. Puis là, il y a des affaires qui se passent que tu vas peut-être pouvoir m'expliquer de l'autre côté du plateau, Martin. Alors, c'est écrit Canada ont finalement reçu leur container de la Chine. Bon, yay, OK, on est content. Ça veut dire que ça a pris du temps. Puis là, c'est écrit, regarde, je vais te lire en anglais parce que c'est drôle. This container has enough stock for almost all the Canadian orders. Ça, c'est drôle, ça.
Pas vraiment.
C'est comme le conteneur a presque assez de tout ce que les Canadiens ont...
ont besoin pour faire le fulfillment de la campagne, mais ça ne marche pas.
C'est, ça ne fonctionne pas. Mais là, après ça, il continue. On est dans le processus d'envoyer le stock qui manque du Minnesota, donc ça ne vient pas de la Chine, mais qu'ils vont l'envoyer de leurs entrepôts au Minnesota pour que ça puisse, pour que tous les Canadiens puissent se recevoir. Fait que là, bon, ça, c'est la première partie de l'histoire que j'ai trouvé drôle. Mais la deuxième partie est intéressante. C'est écrit « Canada has been a challenge for us in the last year ». Ah, je suis tanné. C'est tout le temps ça. C'est,
En quoi on est si spécial que ça?
Je ne sais pas. Puis là, ils mettent en parenthèse « As Canadian was attempted to order anything from our website in the last few months can attest ». Donc, semble avoir de la difficulté à transférer leurs affaires. Mais je pense qu'ils ont de la difficulté avec leur service au Canada. Parce que je vais voir ce qui est écrit après ça. Ils avaient planifié d'utiliser Board Game Bliss pour faire leur fulfillment, donc pour faire leur expédition. Mais Board Game Bliss ont comme refusé et ils ont recommandé d'utiliser une compagnie plus grosse pour justement envoyer probablement la grande quantité de pledges à cause de moi, Martin Lafrenière, avec mes vidéos. J'ai tellement incité les Canadiens à acheter qu'il y en avait trop. Fait que Board Game Bliss ont dit non. C'est dommage parce que Board Game Bliss sont vraiment bons. Absolument pour faire leur fulfillment. Il
ne faut pas que tu oublies que Board Game Bliss, là, c'est un magasin. Hein. C'est comme si tu demandais à notre commanditaire de la pioche de faire l'envoi. T'sais, il est excellent dans ses envois, mais il en envoie peut-être 10 par jour. Mais de dire, je te donne 1200 jeux à envoyer en deux jours. C'est ça, à un moment donné, il y a une réalité que ils ont bien fait de dire c'est plus gros que qu'est-ce qu'on est capable de faire.
Ouais, puis je pense que Board Game Bliss continue à être... je pense un magasin et une entité de ludique qui est très performante et qui fonctionne très bien au Canada. Fait que c'est tout à leur honneur d'avoir refusé, parce que ça aurait sûrement été un gros contrat, j'imagine, pour eux autres, mais ça aurait peut-être nuit à leur réputation. Fait que là, là, on est rendu à la compagnie qui a été recommandée. C'est une compagnie qui s'appelle Hilo.
Okay.
Est-ce que tu connais?
Ben oui, c'est québécois.
Mais ils disent que c'est plus gros que Board Game Bliss?
Ben oui. Hilo, c'est un distributeur. Hilo, c'est l'équivalent de Randolph. Là.
C'est-tu Hilo 3...
Hilo 307, oui.
307, OK. Parce que là, they recommended a company called Hilo, which have been lovely to work with thus far. Donc, ils travaillent avec eux autres. Fait que, c'est écrit, malheureusement, juste au moment où on allait signer l'entente, donc l'entente n'est toujours pas signée, c'est ça que je comprends, là, tu comprends?
T'es pas à veille de recevoir ton jeu.
Malheureusement, au moment où on avait signé l'entente, ils ont été achetés par une plus grosse compagnie which has made getting things going in Canada a bit slower than we'd have liked, donc qui a ralenti un peu les ardeurs. Donc, Hilo a été acheté par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a une exclusivité qu'on ne devrait pas savoir?
J'ai entendu cette nouvelle-là, effectivement.
Donc, est-ce qu'on a été acheté par Asmodée?
Non, c'est... Attends, je vais retracer les informations.
Bon, fait que tout ça pour te dire que tout ça a ralenti un peu les ardeurs. Et puis ça, ils finissent par dire « So we are talking with them right now to make sure we get them your order data in the format they need to begin getting orders out to the door ». Fait que là, donc, ils sont en pourparler pour qu'ils puissent justement envoyer les informations. So we don't have a crystal clear timeline as this involves a bit of back and forth. We expect to have all these things resolved in very short order. Fait qu'ils sont positifs que ça devrait, donc, ce que je comprends bien, là, c'est que j'ai l'impression que les containers sont arrivés, mais que là, ils ne savent pas trop où les envoyer encore. Fait qu'ils sont probablement encore au port de Vancouver.
Attends, les containers, mais il n'y a pas tous les jeux requis pour pouvoir envoyer les commandes.
Ils vont avoir le temps, je pense, de les envoyer du Minnesota, j'imagine. Fait que voilà, c'était. J'ai encore trouvé ça. C'est parce qu'à chaque fois que tu regardes USA, tu regardes Europe, la moitié a été envoyée, tout est en marche. Asia, Ça a l'air que everything they need to begin, donc en Asie, ça commence. Australia, tout va bien. Tu arrives au Canada, c'est un énorme gros paragraphe pour dire, ben écoutez, ça va, mais ça va pas. Fait que c'est ça. C'est une saga qui continue, Martin, pour le Canada. Donc, ben c'est un beau pays, par contre.
Un beau pays à visiter, mais difficile à se rendre pour les jeux de société.
Puis là, je pense que c'est une question vraiment de compagnie puis de brassage de choses. C'est pas la faute, je pense, à personne. C'est pour ça que tu sais, je suis pas fâché, c'est correct, je vais être patient. Je commence pas à crier, là, mais c'est juste que ça devient un peu redondant, tout ça. Et un jour, peut-être qu'ils vont finir par trouver la solution.
Souhaitons-le, effectivement, mais l'histoire se répète, hein, c'est le jour de la marmotte pour notre transport au Canada. Il n'y a pas de solution magique, malheureusement.
Malheureusement.
Martin, on t'a brièvement dit qu'on avait un sujet aujourd'hui.
Ben oui, j'ai bien.
On a failli l'aborder.
J'imagine que le titre va l'annoncer. J'imagine, Martin. On termine le mois de juin. Donc, ça fait 6 mois qu'on a commencé l'année 2023. Fait, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant qu'on fasse un top 5 des meilleurs, nos meilleures expériences ludiques de la première moitié. Et là, tu m'as posé comme question, nouvelle expérience ou ben, moi, je me dis, peu importe. Allons-y avec nos 5 meilleures expériences, que ce soit des nouveaux jeux ou pas, que nous avons eues, puis qu'on aimerait dire aux gens qui nous écoutent. Puis en même temps, je pourrais te dire que j'ai posé la question également sur les fans de l'autre côté du plateau. Fait que j'aurai
Oh.
peut-être quelques réponses du public aussi à donner. Puis, juste te dire, j'ai mis ça ce soir avant notre enregistrement, puis on est déjà rendu à 14 commentaires.
C'est bon, ça.
Fait que
C'est parfait.
c'est. Que notre sujet est déjà un peu
Un
spoilé
peu connu.
sur notre page Facebook.
Eh bien, effectivement, un petit retour pour notre mi-saison. Donc, qu'est-ce qui a retenu notre attention au courant des 6 premiers mois de l'année? Quelles ont été les expériences qui nous ont marquées, les jeux qui nous ont marqués en ce début d'année? Martin, bonne idée. Et on n'en a pas fait souvent des tops, mais je pense qu'on devrait peut-être mettre ça de l'avant parce qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie cette formule-là. Ça permet également de parler de beaucoup de jeux. Et ça, c'est toujours
Apprécié.
intéressant.
Oui.
Ouais, exactement. Donc, je te propose d'écouter ta présentation de notre commanditaire, puis on enchaîne après ça avec notre sujet principal, notre top 10, notre pas 10, notre top 5 des jeux qui a retenu notre attention en ce début d'année.
Je m'écoute. Il est temps de vous parler de notre extraordinaire commanditaire, boutique de jeux La Pioche. Ben Martin et moi, on est vraiment super contents d'être associés à Jean-Philippe et à sa boutique parce que Jean-Philippe est vraiment une personne qui nous ressemble à tout point. C'est une personne excessivement passionnée, tellement passionnée qu'il a décidé d'ouvrir une boutique de jeux afin de pouvoir nous permettre de profiter de ses extraordinaires services. Alors, la boutique de jeux de La Pioche, c'est un site internet, mais c'est aussi une boutique physique que vous pouvez donc vous rendre directement dans la région de Québec. Si vous allez faire un tour dans cette magnifique région, ben, vous avez juste à vous rendre au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec afin d'aller voir Jean-Philippe en action. Sinon, vous pouvez vous rendre au www.boutiquelapioche.com et là, vous allez pouvoir vous rendre compte que son site internet, moi, je l'aime énormément. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, tu as accès à toutes les nouveautés. Donc, si tu veux savoir ce qui vient de sortir, tu cliques sur Nouveautés et là, tu vas avoir plein de produits qui vont apparaître devant toi, qui sont des nouveaux jeux. Et ce qui est le fun de ce fameux site internet, c'est qu'en plus, on voit le nombre de jeux qu'il y a en stock. Donc, il n'y a pas de surprise. On clique, on le sait qu'on peut l'acheter et en plus, les prix sont excessivement compétitifs. Mais ça ne s'arrête pas là, hein, parce que si, par exemple, vous êtes un petit peu tanné des socio-financements puis peut-être de socio-financer des années en avance, bien, il y a aussi une section qui s'appelle précommande. Et là, vous avez une panoplie de jeux. Plusieurs qui viennent d'ailleurs de socio-financement parce que JP va s'occuper de faire ce qu'on appelle un pledge groupé magasin. Comme vous pouvez vous rendre compte, sans farce, boutique de jeux La Pioche, c'est un magasin qui est vraiment le fun, des gens passionnés, des prix compétitifs. Allez faire un tour. Je vous rappelle encore une fois, www.boutiquelapioche.com ou bien vous pouvez vous rendre directement au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest. Alors voilà, merci beaucoup JP de nous faire confiance et on y va avec le prochain segment de notre émission. D'ailleurs, Martin, maintenant qu'on vient de m'écouter parler oui. de la pioche, je voudrais juste te dire que je suis content de t'annoncer en exclusivité que la zone de jeu de société va continuer son association avec la boutique La Pioche pour une autre année, parce que moi, c'est du mois de juillet au mois de juin. Okay. Donc, je suis bien content d'avoir encore la chance de travailler avec JP, que j'ai appris à connaître encore plus dans ma dernière année, et j'ai jamais vu un gars aussi présent pour répondre aux clients. Et avec un... Puis je vous dis ça, là, puis je sais que ça paraît comme une publicité, là, puis ça en est une, d'une certaine façon, mais ce que je vous dis là, c'est que je le dis en tant que consommateur moi-même. JP, je lui demande quelque chose, il va faire des recherches. Je regarde sur mon Discord, j'ai une petite section salon qui s'appelle La Pioche. Le nombre de personnes qui posent des questions, et JP va leur répondre, puis va faire des recherches. Ton ami Stéphane a demandé d'avoir des Speed Paint 2.0, puis j'ai dit, ben écris à JP, puis il l'a fait, et je suis pas mal certain qu'il va avoir un retour sur sa demande. Fait que ça vaut vraiment la peine de publiciser et de faire la promotion de cette magnifique boutique qui est La Pioche à Québec.
C'est là qu'on voit toute la différence de quelqu'un qui travaille dans un métier par obligation ou quelqu'un qui le fait par passion. Puis ouais. JP, c'est vraiment ça. C'est toutes les interventions qu'il fait, peu importe. Tu sais, toi, il va te répondre rapidement parce que tu es la personne avec qui il travaille pour comme commanditaire, commandité. Mais c'est pas vrai. Avec n'importe quel client, il va avoir cette même attention-là. Il va être proactif. Il va être au devant. Donc, c'est tout à son honneur. Bravo, JP. Martin?
Oui.
C'est le début de notre top 5. J'ai dit top 10, mais en réalité, ça va être un top 10 parce qu'on va avoir chacun 5. Oui. Mais d'après moi, je présume qu'il va y avoir quelques crossovers. Combien tu penses qu'il va en avoir?
Mettons, si on va strictement avec les 5, moi, je pense qu'on va en avoir 3.
Pas mal d'accord. Est-ce que ça va être les 3 premiers?
Non, sûr non, que okay. Non. Non, c'est sûr que non. Je pourrais te dire que je pas. Ben, c'est ça. On commence-tu?
On commence ça, et comme à l'habitude, mais Martin, c'est toi qui es à l'honneur. Donc, pour y aller avec ton numéro 5 de tes découvertes en ce début d'année 2023.
Alors, mon numéro 5. Mon numéro 5, c'est un. Ben, c'est la. Il y en a qui vont dire, hein? C'est en numéro 5, c'est pas numéro 1? Mais oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon top, j'ai le droit. Mon numéro 5, c'est Earth de notre ami Monsieur Tardif.
Maxime Tardif.
Oui. Qui va d'ailleurs être là demain au Meeple Olympiade. J'ai très hâte de le rencontrer. Donc, Earth, qui est un jeu que j'ai appris à connaître sous toutes ses coutures. Puis je pense que c'est ce qui m'a fait encore plus apprécier. Donc, grâce au podcast, grâce au fait qu'on a passé du temps avec lui pour discuter du jeu. Mais autre, même si j'en avais pas parlé, c'est un jeu que j'ai backé, que j'ai reçu, que j'ai joué, que j'ai eu beaucoup de plaisir, que j'ai joué à tout plein, en solo, j'ai joué à deux, j'ai joué à quatre. Chaque expérience a été une belle expérience, que ce soit en solo, à deux ou à quatre. C'est un jeu qui, en même temps, nous fait découvrir des choses d'une certaine façon quand même. Des fois, juste par les photos, je regarde, c'est toutes des vraies photos. Hein. Fait que tu regardes, ce type de les champignons des Schtroumpfs, ça existe pour vrai? OK. Fait que Earth m'a vraiment beaucoup surpris par sa qualité. Bon, son matériel, tu le sais, là, j'ai mes réserves là, par rapport au matériel, mais si on parle juste de la jouabilité, je trouve le jeu très intéressant. Et pour moi, pour l'instant, est-ce qu'il y a la trame de monter et tout ça? Sûrement, mais pour l'instant, en 2023, dans mes expériences ludiques, Earth prend la 5e position.
C'est dans le choix, Martin, je ne peux que l'approuver. Il se trouve pas dans mon top parce que moi, je l'ai découvert, ça fait déjà un an, donc Je ne l'ai pas mis dans ce classement-là, mais effectivement, c'est sorti cette année, donc il mérite sa place et excellent choix.
Merci, Martin.
Martin, moi, je vais y aller avec un jeu qu'on n'a pas parlé encore. On n'a jamais parlé
Oh!
de ce jeu-là.
On n'a pas de crossover.
Ben, je ne sais pas.
Ah, OK.
On n'a pas parlé parce qu'on l'a présenté la semaine passée et j'y joue depuis une semaine et pour moi, c'est une. Ben, je trouve ça intéressant qu'on va aussi loin. Ben, aussi loin, c'est pas une grande innovation, mais quand même, d'avoir pris la peine de faire un jeu solo qui est en campagne et que se joue super bien, qui s'installe rapidement, qui est évolutif par ces nouvelles cartes qu'on ajoute dans nos paquets. C'est pas très complexe comme campagne, mais j'aime beaucoup le nouveau Legacy of You de Sean Phillips, qui est sur ma table présentement pour lequel j'enchaîne les parties. Donc, je creuse des tranchées, je sauve des canaux et je me défends contre des envahisseurs qui sont, ma foi, difficiles à contrôler parce que j'ai pas eu un gros haut taux de succès dans ces parties-là. Je sais pas comment ça s'est déroulé. Toi, tu es la découverte de Legacy of You.
T'es rendu à combien de victoires, combien de défaites là?
Alors, j'ai une victoire et quatre défaites, je pense.
Ok. Moi pour l'instant, au moment où on enregistre, j'ai 0 victoire, 2 défaites.
OK.
Fait que c'est. Mais j'ai passé les 2 fois très proche de gagner.
Ouais, moi, ma première partie, ben, bon, faut savoir qu'il y a une façon de gagner, mais plusieurs façons de perdre.
Ouais.
Donc, on a un aspect de construction. Donc, on a une vague qui arrive, qui va déferler dans un canal. Et pour éviter que ça envahisse et que ça détruise le village, on va creuser des tranchées pour faire des déviations d'eau. Donc, la thématique est tout simplement là. C'est une gestion de ressources. On va avoir donc un placement d'ouvriers qui va nous permettre d'aller récolter des ressources pour pouvoir faire plusieurs actions. On a également un repêchage de cartes. Donc, on a une rivière en haut qui est des cartes de paysans qu'on va aller recruter, qui vont nous permettre d'aller faire différentes actions, d'aller chercher différentes ressources. Et de l'autre côté, on a des barbares qui, eux, vont progressivement arriver de plus en plus en grand nombre. Et donc, il faut éviter que les barbares prennent le dessus et qu'ils remplissent la rivière. Donc, et c'est difficile d'aller les chercher au début parce qu'ils sont à la fin de la piste. Et pour aller à la fin de la piste, ça nous prend beaucoup de nourriture. Donc, la première carte est accessible toujours. La deuxième va coûter une nourriture et plus ça va, et plus ça prend de nourriture pour aller vers une expédition plus loin, si on veut. Donc, ça devient difficile de gérer et l'aspect des barbares en même temps et l'aspect du canal. Donc, dans ma première partie, je m'étais loadé de cartes pour dire parce que plus on a de cartes dans notre paquet et moins rapidement la vague avance, parce que c'est quand on rebrasse
Oui.
le paquet que la vague avance. Donc, je me suis dit, ben, je vais remplir ça de cartes. C'était une bonne stratégie pour contrôler la vague, mais un peu moins une bonne stratégie pour contrôler les barbares qui, eux, ont fini pour prendre le dessus. Bref, il y a un contrôle fin à faire entre ces deux conditions de défaite-là, qui, pour tout de suite, je n'ai pas trouvé la clé. Et ça, moi, quand je ne trouve pas la clé, mais que je suis proche de la trouver, je trouve ça intéressant. Donc, je ne sais pas si c'est un coup de cœur du moment ou un coup de cœur de l'année, mais présentement, j'ai du plaisir à découvrir l'aventure de Legacy of You.
Que dire, Martin, que c'est mon numéro 4
Ah
dans mon top 5 de la première moitié de 2023, que j'ai moi aussi, j'ai la même vision que toi, et je dois t'avouer que je suis tombé en amour avec le concept du narratif. Je trouve que le narratif il est bien fait dans ce jeu-là parce que c'est un narratif qui est non linéaire. Alors, toi, où tu es rendu dans ton histoire, est peut-être pas exactement à la même place que moi.
absolument.
Et je trouve ça, écoute, c'est un des narratifs où je suis capable d'entrer dans l'histoire parce que je vais faire un petit spoil, là, mais bon, c'est dans les premières parties, j'en ai juste joué deux. À un moment donné, tu bats un barbare. Fait que là, des fois, en battant un barbare, tu as un chiffre. Le chiffre te correspond à une. Faut que tu ailles lire un passage dans un livre d'histoire. Et là, dans le livre d'histoire, tu te rends compte que le barbare, c'est un gros badass et il meurt pas. Et
Ah,
il revient.
je l'ai eu.
Tu l'as eu, fait que non seulement il revient sur le plateau, mais là tu regardes la carte, là, il est tout plein de sang, il a de la misère à marcher, il est beaucoup plus faible, mais il prend encore une place. Et ça, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme c'est brillant, c'est parfait, c'est extraordinaire. J'ai battu un barbare, mais ce barbare-là a une personnalité. Ce
Il est tough.
barbare-là, il toffe, il survit. Tu finis par le battre. quand tu te bats, ben, il s'en va dans pile d'histoire, puis là, tu ne le verras plus du reste de la campagne. Mais comme tu dis, c'est un jeu qui est très serré. En tout cas, à date, mes deux parties, moi aussi, j'ai pris deux tangentes différentes. Je me suis tout allé du côté des barbares pour me départir des barbares, mais je n'ai pas pris assez de cartes, fait que ça n'a pas bien été. Puis de l'autre côté, comme toi, là, les barbares ont fini par m'avoir. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu gagnes, tu perds une partie. Je n'ai pas vu pour le côté gagnant. Là. Mais encore là, l'histoire ne va pas se développer de la même façon parce que quand tu piges une carte, c'est est-ce que tu as perdu avec la vague ou tu as perdu avec les barbares ou le fait que tu n'as plus de cartes à détruire. Puis là, ben, ça va faire avancer l'histoire différemment. C'est un des plus beaux jeux solo. Quand je te parle là, de... Tu sais, oui, on a des gros jeux comme Ease of Fire. Il y a plein de jeux qui jouent en solo, mais celui-là, il a été pensé strictement solo. Un jeu euro de gestion de ressources. Beau. Écoute, Martin, c'est un chef-d'œuvre, ce jeu-là.
Et il répond à beaucoup de gameplay qui est intéressant en solo. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il ne prend pas énormément de place sur une table. Donc, en partant, je peux m'installer sur un coin de table. Je n'ai pas besoin d'avoir une immense table comme à Ease of Fire and Garde.
Exact.
Ça se joue en une heure. Et quand tu rejoues ta partie, c'est exactement la même partie que tu rejoues. Mais tu n'as pas l'impression de refaire la même partie parce que l'histoire a évolué. Parce qu'on a un paquet de cartes qui sont numérotées de 1 à 80 ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis à chaque fois qu'on joue, bien, on va débloquer des cartes. Et ce n'est pas juste des barbares qu'on va débloquer. On va débloquer des barbares. On va débloquer des paysans qui vont venir nous aider. On va débloquer des lieux qu'on va devoir coloniser. Parce qu'on peut faire des fermes, on peut faire des postes, des outposts, puis on peut faire d'un autre type de bâtiment dont ça m'échappe. Donc, il y a trois types de bâtiments. Des huttes, c'est ça. Donc, les huttes, bien, chaque hutte, on a au dos de la hutte, il y a des récompenses. Et ça, on va en débloquer durant la partie. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est lié directement avec l'histoire. Donc, moi, j'ai eu le droit à un incendie. J'ai envoyé un de mes villageois aller faire de l'investigation. J'ai trouvé ça venait de où. Je suis parti d'un autre tangente pour essayer de trouver c'est quoi la source du problème. Parce que là, je gère deux, trois problèmes en même temps. Et ce qui arrive dans l'histoire, c'est que là, j'ai un autre, je ne sais pas si c'est arrivé encore, mais on va avoir comme une side quest qui va arriver, qui va apparaître à côté de notre plateau. Et durant ma mission, pour accomplir en plus toutes les conditions de victoire, je dois résoudre cette side quest-là en même temps, qui va nécessiter trois paysans que je vais envoyer en mission là-dessus, donc qui va m'affaiblir durant la partie, mais je n'ai pas le choix de le faire pour gagner, parce que là, c'est plus juste de contrôler la vague, il faut aussi que je fasse avancer l'histoire. C'est très bien fait. Donc, c'est pas très compliqué. Puis comme c'est pareil d'une partie à l'autre, ben tu reprends ça en 5 minutes, puis c'est reparti. Là, on peut enchaîner vraiment les parties. C'est brillant.
Oui, puis tu peux même avoir des habiletés spéciales qui vont être utiles après ça d'une partie à l'autre. Ça aussi, c'est cool. C'est un jeu qui va être en français dans pas grand temps, je pense, en plus. Il est supposé de sortir bientôt, de ce que j'ai compris. Évidemment, il y a un beau gros livre d'histoire, puis c'est quand même un livre assez épais, avec pas mal d'histoires. Fait que non, moi, je te dirais que c'est, en termes de surprise, on en avait parlé ici dans le podcast, hein, quand je me souviens d'en avoir parlé dans une des news, de l'actualité que j'ai fait. Puis il m'avait déjà accroché dès le départ, parce que moi, je trouve la couverture super belle. Il y en a qui font comme, un bof. Moi, je ne sais pas pourquoi, moi, je la trouve vraiment super. Le gars, il est comme en avant d'une grosse vague en arrière. Puis en tout cas, bref, je trouvais ça très invitant. Alors, c'est mon numéro 4 à moi et toi, c'est ton numéro 5. Legacy of You, qui ne pourra qu'augmenter, je pense, dans mon top 10 des meilleurs jeux de l'année qu'on va faire plus tard en 2024.
Intéressant. Donc, on a quand même, je pense, une unanimité sur l'appréciation du jeu. Puis je suis content parce qu'on n'a pas du tout parlé ensemble. Donc, on apprend à le découvrir en même temps. Mais tu vois... Aussitôt, c'est bon signe quand on a la quantité de jeux qu'on a, là, quand aussitôt un jeu arrive sur nos tables et qu'on veut l'essayer tout de suite, déjà en partant, c'est signe qu'il y a de quoi qui est accrocheur pour nous.
Il y a deux vidéos sur ma chaîne, j'ai fait les deux vidéos live de mes deux premières parties. Puis je pense que je vais continuer, Martin, à faire ma campagne sur ma chaîne. Puis comme tu as dit, il est arrivé, je l'ai déballé, puis une journée après, il était sur ma table, puis je faisais une vidéo. Alors que j'ai encore des jeux en arrière que ça fait peut-être 3-4 mois qui sont là. Ça prouve que des fois, il y en a qui passent par-dessus d'autres parce qu'ils ont de la plus intéressante.
Excellent. Je vais enchaîner avec mon numéro 4.
Bien sûr.
Je vais aller. On risque d'entendre quelquefois ce soir le nom du designer. Donc, un jeu de Simone Lucciani et Daniel Tacchini. La série hantée. Donc, Tiltum, qui a retenu mon attention, c'est un jeu, bon, encore une fois, très euro. C'est de la compagnie Board and Dice. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 100 minutes. C'est un jeu dans lequel on va avoir une rondelle d'action qui va être activée par des dés qui vont représenter soit des forces d'action ou des ressources. Et là, c'est toujours l'inverse. Donc, plus j'ai de ressources, moins j'ai d'action et vice-versa. Donc, on va se promener sur une grande map. On va aller faire des foires pour faire des points de victoire, construire des églises. Bon, la thématique est un peu plaquée. Le jeu est un peu beige, mais mécaniquement parlant, c'est un jeu qui fonctionne super bien, qui est très, très engageant au niveau du gameplay quand tu joues. Donc, qui se joue également très, très bien en solo. Donc, j'ai fait des parties en solo sans problème. Alors, ça a été pour moi une belle découverte cette année avec Tiltum. J'ai malheureusement peut-être pas joué suffisamment pour pouvoir voir dans toutes les configurations si il shine comme je l'espère. C'est un jeu que je me promets de réessayer au courant de l'année pour faire une ou deux autres parties.
J'ai jamais essayé encore Télétoon.
Ben,
Mais
tu
il est
l'as?
là. Oui,
Tu
je
l'as?
l'ai. C'est mon ami Stéphane qui en a fait une première impression. Donc, il n'a pas fait de vidéo sur ma chaîne. Mais quand il me l'a ramené, je ne l'ai pas mis dans mon backstore, celui-là. Je l'ai conservé. Fait que je me promets de l'essayer parce que tout le monde en parle en bien, dont toi. Donc, ça va faire partie de mes prochains essais.
On passe au numéro 3.
Hey, on est déjà rendu au numéro 3. Tabarnouche, ça va vite cet épisode-là.
Incroyable.
C'est incroyable. L'introduction va être plus longue que notre sujet. Mon numéro 3, c'est un jeu vidéo, un jeu de société, alors, qui s'appelle Frostpunk The Board Game, Martin, que j'avais quasiment déjà oublié, imagine-toi donc, mais quand je regardais ma liste, c'est drôle comment on joue un jeu, mais il y en a tellement, puis nous autres, on en joue tellement des jeux que des fois, il y en a qui finissent par se retrouver. Un petit peu plus loin en arrière, mais Frostpunk, que je n'ai pas chez moi d'ailleurs, c'est mon ami Stéphane qui l'a parce qu'il voulait l'essayer. Fait que Stéphane, si tu m'écoutes, je vais vouloir avoir le jeu, s'il te plaît. Mais c'est un beau jeu de gestion, un peu complexe au début à prendre en main, mais une fois que tu comprends, c'est très séquentiel, là. Donc, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, puis tu fais tes affaires, mais c'est un jeu de survie et un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu de construction de village. Dans un monde post-apocalyptique de glaciaire, dans un monde où il fait très, très froid. C'est un jeu qui nous permet aussi de passer des règles et des lois. Ça fait un petit peu passer à un autre jeu qu'on a joué ensemble.
Oui.
Pour modifier un petit peu l'allure de du plateau, puis bon, l'allure de comment on peut aller chercher des ressources. Il y a une structure pour mettre des cubes dans un genre de générateur de chaleur. Qui va donc affecter notre gameplay. C'est un jeu qui est beau. Moi, je le trouve personnellement très, très bien. Ça se passe en hiver. Les tuiles sont blanches, mais je trouve que ça va bien. Puis si vous avez le tapis en plus pour aller en dessous, ça fait très thématique. J'ai encore peur que ce jeu-là devienne redondant avec le temps si on y joue souvent parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de scénarios que ça, mais en même temps, je n'ai pas encore réussi scénario 1. Fait que ça va peut-être me prendre du temps avant que je me rende jusqu'au bout. Mais peu importe, j'adore le système avec les jetons, la chaleur, là, puis qui fait en sorte que quand tu montes, ben, tu as le temps de porter, puis tu vois tout a été super bien designé dans ce jeu-là. Fait que Frostpunk, The Board Game, qui présentement est mon troisième meilleure expérience que j'ai eue en 2023.
Tu avais raison de dire que on en joue tellement qu'on vient qu'à l'oublier. Je l'ai recensé hier parce que je préparais mon article sur les jeux solo et moi j'avais joué seulement solo. Donc c'était un des jeux que j'avais en tête pour parler comme bonne expérience. Qui me fait penser un petit peu à This War of Mine, mais je te dirais même plus engageant avec une gestion de ressources que je trouve très bien. Qui me fait penser aussi à un jeu. de ce style-là qui est survie, mais également, c'est comme un mix de deux mécaniques de jeu. Donc, on a un jeu de survie, mais on a un jeu de gestion de ressources en même temps.
Ouais.
Et la dernière fois que j'avais eu senti ce sentiment-là, c'était dans le jeu City of King, que j'avais bien aimé également, qui avait comme une mini-game avec nos meeples pour aller chercher des ressources et notre combat avec le personnage. Donc, c'est ce genre de jeu-là que moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment différent des autres jeux. Martin, avoir fait plus de recherches, puis peut-être plus jouer, Marc, parce que j'ai seulement fait deux parties de Frostpunk, mais certainement qu'il risque de se retrouver encore dans mon top 10 de l'année. Présentement, il n'est pas là, mais c'est plus un oubli que d'autres choses, je pense.
OK, ben je m'en allais dire, tu sais, celle-là, j'étais pas mal sûr qu'on allait l'avoir, parce qu'en plus, c'était notre première critique, La
Ben oui,
Pioche,
ben oui.
qu'on a faite ensemble, on l'avait pas mal encensé. Mais tu sais, en même temps,
Parce que je ne l'ai pas ressorti depuis.
Ben c'est ça, puis on en joue tellement qu'à un moment donné, que même moi, parce que j'ai vraiment pris mon BG Stat tantôt pour faire le regarder les jeux qu'on a joués, puis j'ai fait comme ah, oui, il est bon celui-là, puis il a fini par terminé en troisième position.
Très bon choix. Très bon choix.
Merci.
Martin, c'est juste qu'il apparaissait peut-être pas assez souvent dans ma liste parce que j'avais joué seulement deux fois, mais c'est sûr et certain que. Je me promets d'y retourner. Puis de l'essayer à plusieurs, je l'ai seulement joué en solo présentement.
Ouais, c'est vrai. Malgré que c'est un bon jeu solo.
Oui, exact. Moi, j'ai mis donc en troisième position une expérience qu'on a fait ensemble. J'ai seulement une partie de jouer. Et c'est d'un auteur que je viens de tout juste de mentionner. Il faut croire que j'aime l'Italie. C'est peut-être parce que j'ai été faire un tour cette année là-bas. Alors, Simone Liciani, cette fois-ci avec Nestor Mangone. Et c'est Darwin Journey que tu nous as présenté lors de notre mini-lal au chalet. Donc, un
Ah
jeu
ouais,
d'exploration. Oui, il est assez fort pour dire que j'aimerais beaucoup retourner faire une expédition en compagnie de Darwin. J'ai vraiment pas été à la hauteur de ma première partie, mais ça, pour moi, là, quand un jeu me déstabilise et que je vois pas le chemin vers la victoire instantanée, c'est le genre de jeu que c'est sûr que je veux y retourner parce que je dis, OK, là, j'ai pas maîtrisé encore la bête et il faut que j'y retourne. Là, j'ai pas le jeu, je pourrais pas y retourner. Mais je me promets probablement de me le procurer éventuellement parce que c'est mon genre de gameplay. Puis je sais pas comment il roule en solo. Tu auras peut-être la chance de nous le dire. Mais bref, bien accroché sur celui-là avec une gestion très serrée des ressources, de l'argent et tout ça. Donc, ça fait en sorte que très, très intéressant avec. On a parlé de In the Footstep of Darwin, mais là, c'est la journée de Darwin, donc Darwin's Journey.
Ouais, là, je dois te dire que j'ai fait une erreur de règle dans notre partie, Martin.
Ah, encore, c'est quoi?
J'ai fait une erreur parce que, tu sais, quand on jouait, j'avais mis les vidéos sur ma chaîne, puis tu sais que sur nos chaînes, il y a toujours des gens qui sont très, très bons dans les règles et qui ont décelé ces erreurs-là. J'ai fait quelques erreurs aussi, petites erreurs en solo. Mais en multijoueur, à chaque fois que notre meeple va sur une lunette adverse, je sais pas si tu te souviens,
Oui.
les gens. Bon, ben, c'est pas nous qui lui payons à la personne. La personne prend l'argent de la banque.
Ah, OK.
Fait que tu
Parce
comprends
que
que.
je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup d'argent dans le jeu. Ça devenait encore plus compliqué, puis ça déstabilisait. Parce que ça t'avantage du double, parce que si je te donne de l'argent, moi j'en perds, ben c'est sûr que
C'est ça. Fait que
c'est deux
c'était
fois plus.
important de tenir ça. Puis moi, j'ai fait cette erreur-là quand je jouais en solo. Puis en solo, Alfred, il met beaucoup de lunettes. Fait que moi, j'avais de la misère beaucoup à avoir de l'argent en solo. Fait que c'est sûr que je me promets d'y rejouer en solo parce que j'avais fait une erreur. Puis j'avais fait aussi une autre erreur importante en solo. En solo, tu te souviens que quand on se promène sur la carte, qu'on va découvrir nos spécimens,
Oui.
ben, tu sais, en théorie, quand on joue, toi puis moi, en solo, pas en solo, mais en multijoueur, ben, on fait l'action sur notre bonhomme arrive dessus. Sauf qu'Alfred, lui, fait les deux dernières actions. Mais moi, j'avais mal lu. Moi, je pensais que ça excluait les actions de spécimen parce qu'Alfred, lui, il étudie tous les spécimens aussitôt qu'il passe par-dessus. Alfred, il triche comme
Il
ça.
triche pas mal, ouais.
Sauf que les deux actions, ça inclut. Moi, ce que je faisais, c'est que s'il avançait, mettons, de trois cases, ben, mettons, un, deux, trois, puis si une de ces cases-là, c'était un spécimen, mais je l'éliminais dans les deux actions. qu'il prenait, puis je prenais les deux autres. Fait qu'il finissait par faire trois actions dans son tour. Puis là, c'est pour ça que j'avais des chiffres parce que démesurés. Alfred était beaucoup trop avancé par rapport à moi. Fait que j'ai fait des petites erreurs. Des fois, c'est niaiseux. Tu fais juste des petites affaires qui débalancent, mais là, ça me retente de retourner jouer en solo en ayant ces règles-là pour voir vraiment. Parce que je le trouvais vraiment tough. Il était difficile, Alfred, à battre. Là. Mais je l'ai battu une fois.
Ah oui?
OK. Ouais, quand même.
Mais c'est bien. Est-ce qu'il est bien, solo?
Oh, très, très bien. Moi, okay. J'apprécie beaucoup le solo. Moi, Martin, il est mon numéro 7.
7? OK, tu as continué la liste par en haut. Ouais, c'est bon.
Ouais, ben, j'ai sorti des jeux qui pourraient être dans mon top 5, puis j'ai mis après ça des chiffres. Fait qu'il est mon numéro 7, mais j'ai beaucoup apprécié aussi d'avoir le jeu. Mon numéro 2, Martin, ben... C'est sûr que c'est un crossover. Je ne sais pas si tu l'as mis numéro 2.
Est-ce que c'est dans le même ordre?
Ouais, c'est ça. Moi, mon numéro 2, c'est Hégémonie. Alors, Lead Your Class to Victory. Que j'ai failli jouer avec David. J'avais invité un collègue de travail pour venir. Puis malheureusement, mon collègue n'a pas pu se présenter. Puis David n'avait pas l'air d'être chaud à l'idée de jouer à deux joueurs à ce jeu-là. Mais j'ai entendu ça qu'il se jouait quand même correctement à deux joueurs. Puis en plus, moi, j'ai des automas. Et j'ai lu les règles des automas et c'est du lourd, là. C'est pas du petit automa simple. D'ailleurs, il y a deux difficultés à l'automa. Vous pouvez jouer les règles simplifiées ou les règles avancées avec l'automa. Mais c'est un excellent jeu. C'est un jeu qui mélange tellement d'affaires. T'as la classe ouvrière, t'as la classe médium. T'as les capitalistes.
Pas médium.
Ben, pas médium. La classe moyenne.
Moyenne. La classe moyenne.
Et t'as les capitalistes et t'as l'État. Chacun ont des actions relativement asymétriques, malgré que la classe moyenne a des actions des deux autres. Parce que moi, quand j'étais capitaliste, je pouvais mettre des compagnies. Les compagnies ont besoin de travailleurs. Donc, il faut les payer. En échange, il faut que la classe ouvrière et être travaillé pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir s'acheter différents types de services qui vont lui rapporter des points.
Ouais, la différence, c'est que moi, j'étais la classe moyenne et moi, je construisais des dépanneurs, puis Martin, c'était des multinationales. Il y avait une différence d'échelle.
C'était effectivement des multinationales, mais sauf que vous autres, parce que j'ai regardé, vous aviez beaucoup plus de facilité à faire des points. C'est juste que vous l'avez pas, vous n'avez pas parti dès le début, là. Parce que c'est un jeu qui est un peu difficile à prendre en main, mais une fois qu'on a tout compris le fonctionnement, c'était tellement, la synergie c'était magnifique. Et c'était magnifique de voir que c'est un jeu de négociation où tu ne te sens pas obligé de négocier. Ce qu'on comprend, c'est que c'est fluide. C'est que tu sais, t'es comme, ah Martin, ben, j'ai besoin, tu me vendrais-tu tes cœurs de santé? Ah, là, laisse faire un peu. T'sais, puis là, le jeu vit, puis tu vis dans le jeu. Je pense que c'est ça le concept, c'est qu'on finit par vivre dans le jeu plutôt que ce soit une règle de jeu de négocier.
C'est vrai que les jeux de négociation, souvent, ça va prolonger le jeu parce que ça peut faire en sorte que on est bloqué parce que tel joueur ne veut pas faire ce trade-là. Et là, tout le jeu est au ralenti parce que lui, il ne veut pas bouger. Ça devient très frustrant. Mais ce n'est pas le cas dans ce jeu-là parce que l'État va toujours, elle ne négociera pas. Ses prix sont fixes. Fait que donc, on a toujours une ressource qui est là, qui est fixe, qui va fluctuer, mais est en quantité limitée. Puis là, ceux qui ont de l'abondance, ben, eux peuvent gérer le marché. Et là, c'est à toi de savoir si tu veux payer ou pas. Mais tu peux, si tu veux faire descendre le marché, tu peux aussi aller influencer en faisant des votes. Bref, c'est assez brillant. C'est très, très, très brillant. D'ailleurs, j'ai des amis qui l'ont joué à 4 et c'est l'État qui a gagné
la partie. Ouais. Parce que l'État a une façon aussi spécifique de fonctionner où elle doit essayer de marcher avec tout le monde pour faire des points. Il faut que tout le monde ait son compte. D'ailleurs, je t'ai envoyé en fin de semaine la règle des fameux cubes mauves. Alors oui, effectivement, Martin avait raison. On avait joué où Martin il s'était ramassé avec 50, j'en mets un peu, mettons, une vingtaine de cubes mauves. Qui sont des cubes d'influence. On ne savait pas trop à quoi ils servaient, ces cubes-là. Martin les accumulait, et finalement, une fois que le vote est terminé, ceux qui ont des cubes mauves peuvent
influencer le vote.
Miser des cubes. Donc, ils disent, admettons, OK, j'ai 20 cubes mauves, là, dans la main, ils doivent doivent prendre un certain nombre. Donc, les gens savent combien il y a de cubes. Puis, ils en prennent au hasard, ben pas au hasard, mais tu sais, ils choisissent le nombre. Puis après ça, tout le monde en même temps laisse tomber ses cubes et ces cubes-là vont se ramasser, dans le fond, dans du côté
Mais ajoute à notre vote.
Qui ajoute au vote. Donc, oui, effectivement, les cubes auraient pu avoir une incidence dans notre parti. Mais c'est sûr que moi, j'aurais probablement aussi bâti des parce que j'en avais aussi qui faisaient de l'influence. Mais bref, ça pour dire que c'est un excellent jeu qui va être en français aussi, si vous avez la chance de sauter là-dessus en anglais, si vous êtes à l'aise, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, là. C'est pas un jeu facile, là. C'est pas un. Si vous êtes pas. Si vous avez de la difficulté avec l'anglais, là, attendez la version française. Mais c'est un jeu unique en son genre, je pense. Très, très beau design. Hégémonie, mon numéro 2.
C'est bon choix, c'est effectivement un jeu qui sort des. Qui ressemble à rien à ce que vous avez dans vos ludothèques, qui est une expérience ludique en tant que telle, à part entière, qui est excessivement brillant dans sa construction parce que tout est très bien imbriqué un dans l'autre. C'est très, très, très surprenant comme gameplay. Moi, il m'a agréablement surpris quand on a joué. Stéphane voulait rien savoir du jeu, il faisait presque la baboune. Puis finalement, je pense que ça a été son coup de cœur du week-end également.
Et d'ailleurs, je suis en train d'organiser une nouvelle partie avec nous trois, là. Peut-être nous quatre, là, quand on va être capable de se voir éventuellement. Parce que c'est difficile d'être capable de relier nos horaires, mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça y rejouer le plus vite possible avant
Ah.
qu'on oublie les règles. Ça,
Exact.
ben, c'est un excellent jeu, mais il y a quand même pas pire de règles. Mais c'est pas si pire que ça. Ça paraît énorme, mais c'est pas si pire. C'était mon numéro 2, toi, Martin, ton numéro 2.
Mon numéro 2 était sur ma table de jeu ce soir et je n'ai malheureusement pas pu y rejouer. C'est un jeu qui obsède mes pensées par les temps qui courent,
Hey, oh.
qui fait en sorte que je veux redécouvrir ce que j'appelle des épisodes Netflix. C'est Isofarian Guard. C'est un jeu que j'ai attendu depuis longtemps. C'est un jeu qui, je pense, qui a valu la peine d'attendre. Oui, il n'est pas parfait. Oui, il y a beaucoup de fiddliness dans le jeu. Mais pas tant que ça, finalement. Ça,
Non, non,
il se
non.
prend quand même assez bien en main. Mais
Oui.
je veux dire, il y a quand même des zones grises où, tu sais, ça paraît que ce n'est pas un grand développeur de jeu, là, ne serait-ce que par la composante de la boîte ou des petites erreurs de fabrication. Mais tu sais, c'est rien de majeur. Et ils sont très, très réceptifs parce que je sais que tous ceux à qui j'ai parlé ont déjà écrit et ils se sont tous fait promettre de recevoir les pièces manquantes ou les pièces brisées.
Ouais, mais c'est
Mais
long, par exemple.
ouais, il faut être patient.
Parce que moi, j'attends toujours mes séparateurs après 3 semaines. Mais bon, j'imagine que ça va passer à la frontière bientôt.
Mais pour son gameplay original, pour ses histoires très engageantes, lui, c'est vraiment en tout cas, Forteller est un must pour ce jeu-là. C'est vraiment bien fait, même plus que Durinagar qu'on a eu au courant de la soirée hier.
C'est vrai? Ah ouais?
Ah oui. Isofarian Guard est très, très, très bien fait.
OK.
On écoute ça et on a l'impression d'être dans les, dans, de vivre l'aventure avec eux. C'est un jeu d'exploration, c'est un jeu qui va être à grand déploiement, qui va être beaucoup d'heures de jeu, c'est sûr et certain. On a une progression de personnages, c'est donc d'un jeu de 1 à 2 joueurs, ça c'est assez rare dans les comptes le nombre de joueurs. Se joue très bien en solo ou à 2 parce que c'est une collaboration à 2 joueurs. La plupart des jeux, de toute façon, se jouent généralement pour être optimisé. Généralement, on va prendre deux personnages même quand on joue en solo, et c'est le cas pour lui. Là.
Ça fonctionne très bien parce qu'ils ne se mélangent pas vraiment. Tu sais, je veux dire, tu joues un, tu joues l'autre. C'est pas, ça fonctionne vraiment très bien en solo, là, ce jeu-là.
Exact. Puis les deux personnages sont complémentaires. C'est comme. Sont comme essentiellement, en tout cas dans le premier épisode, dans le premier chapitre, ces deux personnages qui sont excessivement complémentaires. Et je pense que ça va être comme ça tous les autres. J'aime beaucoup cet aspect-là d'avoir des chapitres. Donc, on a une histoire générale qui va évoluer, mais on va avoir, au début, tout le monde est là et on part avec deux personnages. Éventuellement, on va revoir deux autres personnages et éventuellement deux autres. Donc, l'histoire va évoluer de façon parallèle. et on va apprendre plusieurs axes de développement dans l'histoire, mais c'est des histoires qui se finissent. Donc, on commence et on va finir éventuellement chapitre 1 pour éventuellement passer le reste de l'histoire avec d'autres personnages. Et ça, j'aime bien ça parce qu'on va avoir l'impression de faire vivre quelque chose de grandiose, mais avec des histoires qui sont assez concises dans le temps. Bien que concises, je pense que ça va prendre plusieurs heures parce que ça demande un bel investissement, mais comme j'ai parlé avec Stéphane, c'est tellement un jeu qu'on ne voit pas le temps passer. On a fait un 5 heures, puis c'était comme si, quand tu es arrivé au chalet, tu as cogné à la porte, puis on pensait qu'on venait de commencer à jouer.
Déjà, il nous dérange.
Oui, c'était quasiment ça. Mais non, mais c'est incroyable comment le temps passe vite dans ce jeu-là. On avait des craintes qu'elle allait s'essouffler avec le nombre de batailles. Jusqu'à date, c'est pas le cas. Juste l'aspect de backbuilding, de la façon qu'ils utilisent les chips, la façon qu'on les garde dans le bag, qu'on peut les remettre. Bref, ça fait en sorte que c'est très, très engageant comme jeu. Et c'est un jeu pour moi là, qui... je pense qu'il va être longtemps sur ma table. C'est ce que je voulais faire avec Gloomhaven que j'ai jamais réussi à faire. Je pense que cela, pour moi, va correspondre plus à mon gameplay. C'est dur à dire. Hein. Isofarian Guard est supérieur à Gloomhaven. Bref.
Non, mais je te comprends parce que malgré la grosse boîte, il est facile à mettre en place. Bon, il prend beaucoup de place, là, mais c'est parce que c'est le concept des batailles rapides majoritairement. Qui fait en sorte que pour moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Tu joues une bataille, tu fais une bataille en 10 minutes, tandis que Gloomhaven, c'est une heure et demie, des fois, par bataille, dépendamment comment ça va. Fait que je sais pas, Gloomhaven et Frosthaven sont pas bons, là, c'est des excellents jeux dans ce qu'ils sont, mais Isofarian Guard réussit à faire ça. Puis, ce que j'ai compris, pour avoir essayé de battre le premier boss, là, soyez patient et surtout, allez faire le tour pour améliorer vos personnages un petit peu avant de vous rendre dans un boss. Surtout quand tu penses savoir que tu t'en vas dans un... Parce que là, je suis mort, j'ai tout perdu mes ressources. Puis est-ce que ça me décourage présentement d'aller rechercher mes ressources? Non. Bon, c'est sûr que si je meurs 5 fois de suite, là, peut-être que je vais finir. Mais avant d'aller me battre la prochaine fois, je vais aller remettre mes ressources dans ma ville.
Il y a des points de sauvegarde là, qu'on peut faire, effectivement.
Oui. Fait que c'est mon numéro 1, Martin.
Ben, je suis pas surpris, Martin, que ça soit ton numéro 1 parce que c'est. Regarde, on va tout simplement faire ça rapidement parce que mon numéro 1 et notre numéro 2 est tout simplement inversé. Donc, j'ai mis Hégémonie en première position. Je voulais te faire une blague en disant Autobahn, mais je suis sûr que tu l'aurais pas, t'aurais pas accepté mon choix.
Je pense que personne n'aurait accepté le choix parce que tout le monde a compris que tu n'avais pas aimé le jeu. Mais autant que pour Hégémonie, autant que pour Isofarian Guard, qui sont arrivés pas mal en même temps dans ma vie là, ludique, là. Hégémonie, j'aimerais vraiment. Moi, je travaille fort pour essayer d'y rejouer. Ça me tente un petit peu moins de laisser en solo maintenant quand j'ai vu la complexité des automas, mais dites-vous que c'est possible. Isofarian Guard, ben, je l'ai déjà dit puis je le répète encore. J'ai malheureusement pas eu le temps d'y rejouer depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, mais que j'ai passé proche la semaine dernière, mais je tombe en vacances bientôt. Fait que c'est sûr que je vais l'installer sur ma table en haut, puis probablement qu'il va rester là pendant un certain temps. J'ai l'intention de me rendre le plus loin possible, mais je dis la même affaire aussi pour plein d'autres jeux cet été que je veux m'avancer, dont Durinagar, dont ISS Vanguard. Je veux être un homme de campagne.
C'est ça que je m'en allais dire. Est-ce qu'il vient de tasser de la table ISS Vanguard pour prendre les dessus? Est-ce que c'est lui que tu vas attaquer en premier?
J'aime beaucoup ISS Vanguard. Toi, tu ne l'as pas encore vraiment passé au travers, encore Vanguard.
Non, je ne me suis pas rendu loin encore.
Mais Vanguard, là, il y a un petit quelque chose de science-fiction, puis l'histoire est bonne. Puis le concept d'aller sur les planètes, puis des explorer. Sauf que tu sais quoi, ma crainte que j'ai, Martin, c'est que j'ai vraiment l'intention de m'y remettre parce que j'ai passé tellement d'heures à peindre ces figurines-là, Martin, qu'il faut que je joue. Là. Mais. J'ai peur d'avoir perdu l'histoire. Ouais. Donc, tu sais, c'est tout à ça l'idée. Hein? Puis malheureusement, dans ces applications-là, il y a pas. Ils tiennent pas en note nécessairement ce que tu as fait. Fait que, malgré que moi, j'ai des vidéos. Fait que je vais pouvoir peut-être regarder mes vidéos pour me souvenir où j'étais rendu, mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement cette chance-là. Fait que c'est Des fois, c'est des jeux qui sont difficiles à réembarquer quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué. Mais je ne recommencerai pas du début. Là. Je vais partir d'où je suis rendu. Il y a des planètes qui évoluent, hein, des SS Vanguard. Puis je me souviens que la dernière planète, quand je suis parti, ben, elle est dans un état que quand je vais retourner dessus, elle va être exactement pareille. Ça marche comment, ça, déjà? Je ne m'en rappelle plus.
Ouais, c'est pour ça que quand on est ressorti de Runagar hier, on s'est dit, ben, on met ça, on part du début. Puis là, je me suis dit, je vais me rappeler en faisant le tutoriel pendant que l'histoire. Mais là, on a parti Forteller et l'histoire était complètement différente. Là, je dis, voyons, c'est quoi qui marche pas, là? J'étais tout perdu. J'étais perdu dans le tutoriel. Ça va pas bien, mon affaire.
Mais tu m'intrigues avec ça. Parce que je me souviens, je l'ai fait avec toi, puis pas avec toi, mais avec ta copie. Je suis quasiment intrigué de voir le début de Drenagor. Maintenant que tu m'en parles, il va sortir plus vite, je pense.
Je pense pas que tu vas voir la différence parce que toi, tu vas avoir directement ta copie avec la bonne version qui correspond à Forteller. Mais non, il y a des choses complètement différentes. Surtout à la fin de la première du tutoriel, on a l'image d'interaction avec la vieille dame et sa fille, et sa petite fille. Et là, dans notre version à nous, c'est on pose une question, on choisit un élément, on s'en va, on répond, puis on subit les conséquences de ce qu'on a choisi. Un peu comme dans un livre dont vous voulez être héros. Dans l'application, c'est tu as un dialogue qui s'installe avec la personne, tu vas avoir deux, trois interactions, tu vas avoir des tests d'habileté à faire. On n'avait pas
OK.
ça à faire. Donc, non, ça a quand même relativement changé. Et comme je te dis, après ça, les embranchements vont changer. Fait que, bref, pour moi, là, c'est un énigme. Probablement pour le mieux, c'est ce que j'ai lu sur BGG, que c'était ceux qui ont joué à la version 1.5 disent que la première version est l'équivalent d'un prototype. Non.
OK. Oh mon Dieu.
Oui, OK.
Excuse-moi, je vais vous dire un gros mot. Shit.
Ouais. Ben moi, j'ai la
C'est.
première version.
OK, mon Dieu, c'est une claque d'en face, ça.
Oui, parce que j'ai quand même payé, sûr. Hein.
Oui, c'est OK.
Ben,
Bon,
il aurait pu
mais.
m'envoyer de bord le update pack, pas trop
Fais-tu le
cher.
payes? Fais-tu le
Mais
payes?
oui.
Oui, tu peux le payer. Tu peux sûrement encore aller le chercher. Okay, vas-y, Martin.
On va revenir à nos numéro 1, numéro 2, donc Hégémonie et Isopharian Guard. Donc, Isopharian Guard, j'ai juste besoin d'y rejouer plus souvent pour voir si il va être assez différent d'une partie à l'autre. Bon, Hégémonie, c'est sûr et certain que c'est des expériences qu'on commence et qu'on finit dans la même soirée, donc c'est pas le même type de jeu, mais c'est le jeu vraiment engageant avec de l'asymétrie au niveau des personnes. Donc, je vais avoir le goût de toutes les essayer. Je vais essayer de ce genre de jeu qui va beaucoup susciter d'interactions durant la partie entre les différents joueurs. Puis j'imagine que ton groupe de joueurs avec qui tu vas jouer va créer des parties différentes.
Oui.
Donc, c'est une belle réussite à ce niveau-là. C'est pas à portée de tous, là. C'est sûr que c'est un jeu hyper niché. Mais écoute, j'ai vraiment. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu une expérience ludique aussi satisfaisante. Donc, c'est pour ça que je le mets numéro 1.
C'est drôle parce que je veux justement finir en disant que je regardais ce que j'ai joué en 2023. Tu sais, je vais te le dire, ma sixième position. J'ai mis Final Girl, la deuxième saison que j'ai jouée. La septième position, j'ai mis Darwin's Journey. La huitième, Sur les traces de Darwin, que j'ai adoré et qui m'a beaucoup impressionné. Puis ma neuvième position, c'est un jeu qui s'appelle Obsession, que
Ah, j'ai pas joué, lui.
j'ai bien aimé ce jeu-là. À date, je te dirais que ma première moitié de 2023, c'est toute une année, c'est toute une première moitié, là. J'ai vraiment fait de magnifiques découvertes. Puis j'en ai d'autres là, que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer. Mais ça a été. Puis il y en a qui s'en viennent là, aussi que j'attends avec une certaine impatience, dont le prochain Sleeping Gods qu'on devrait recevoir très bientôt. Fait que tout ça pour te dire, Martin, que c'est 2023, pour l'instant, c'est une de mes belles années ludiques qui m'a vraiment remis dans le. Parce que j'ai eu un petit down, comme je t'ai dit, au mois de février.
Oui.
Puis on dirait que depuis le mois de février, là, j'ai redécouvert des jeux qui m'ont vraiment, t'sais, comme Earth, admettons, là, qui m'ont vraiment remis sur la carte, des jeux qui sont souvent simples. Bon, c'est sûr que Hégémonie, c'est un peu plus complexe. Isopharian Guard, ça prend quand même un certain temps pour bien le rouler, mais après ça va bien. Mais c'est des jeux simples qui jouent bien, sont le fun, c'est innovant. Je trouve ça vraiment, je trouve qu'on est encore dans des beaux moments.
Oui, hein, faudrait peut-être en faire un débat à un moment donné. Est-ce qu'on est à l'âge d'or des jeux de société? Où est-ce qu'on se situe par rapport à l'évolution du jeu? Où est-ce qu'on va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est des beaux débats. Moi, je suis effectivement surpris cette année de la qualité des jeux que j'ai joués parce que, en termes de nombre, ça a sensiblement pareil à l'année passée, là, à pareille date, là. Présentement, j'ai 52 nouveautés essayées depuis le début de l'année. Sachant
Ouais.
qu'on était à peu près à mi-année, qu'il y a 52 semaines, ça fait deux nouveautés par semaine, c'est quand même pas mal. J'ai un total de combien? 180 parties de jouer depuis le début de l'année, donc qui est un peu en bas de ma moyenne, mais c'est parce qu'effectivement, j'ai peut-être essayé plus de jeux. Ce qui fait en sorte que ben, c'est pas toujours aussi rapide que de prendre des jeux qu'on connaît déjà. Mais non, non, c'est une superbe de belle année jusqu'à date et j'ai pas beaucoup de déceptions dans ce que j'ai essayé. Et ça, c'est assez remarquable.
Je vois combien de parties à date cette année, Martin? Je vais te regarder ça avec moi.
J'en ai 180 de jouer, il m'en reste 320 pour faire mon challenge de 500
OK.
parties.
Ensuite, moi, j'en ai 109. Fait que tu me bats à ce niveau-là, là.
Ouais,
T'es...
ben, ouais, oui, mais. De jeu unique, je ne sais pas, je n'ai pas ma stat là avec moi, mais c'est sûr qu'il y a des petits jeux que j'aime sortir. Puis moi, je fais beaucoup de roll and write, fait que ça fait une différence. C'est des jeux que je peux faire deux, trois, quatre parties en même temps. D'ailleurs, je vais te parler la semaine passée, la semaine prochaine, de Coffee Roaster que j'ai essayé.
Oui, ton
Il était
fameux jeu solo
de
de café, là.
torréfaction de café, ouais. Qui est
Ben,
quand même pas mal.
Ah oui? OK.
Ouais.
Est-ce qu'il va, tu penses qu'il va être dans ton top 10 des meilleurs jeux de la première moitié de 2000? Non, parce qu'il n'était pas là.
Là, j'ai fait le top 5, le top 10 peut-être, tu sais pas.
Ah, OK, c'est vrai. Ah, ben, écoute, tu me titilles déjà pour la semaine prochaine.
Ben oui. Semaine prochaine, qui sera notre 100e épisode. C'est un rendez-vous live si vous êtes capable de vous me rendre disponible. Suivez notre page Facebook pour savoir exactement de quelle façon vous vous branchez, quelle heure ça sera. Notre fameux enregistrement et soyez sans crainte, ça va effectivement être disponible par ensuite sur toutes vos plateformes préférées. Martin, as-tu de quoi comme mot de la conclusion? C'est pas moi cette semaine, j'ai rien préparé.
Ben, on essaie de viser 14 heures, heure du Québec, donc 20 heures en France pour la semaine prochaine. Fait aussitôt qu'on a cette information-là, on vous la met. Puis pour mon mot de la fin, je te dirais continuez de gamer.
C'est pas David, ça? C'est
Oui,
toi?
ben ouais,
OK.
c'est pour faire un petit clin d'œil à David.
Qu'on salue et qu'on souhaite bonne chance pour son événement, les Meeple Impiades qui arrivent très prochainement.
Tout à fait. Au cégep de Sretressic, mais c'est la première fois que je vais aller dans ce cégep depuis que je suis moi-même allé.
Il y a quelques années déjà, c'est ça.
Il y a quelques années, effectivement. Fait que bonne semaine, Martin.
Merci, bonne semaine à tous. Puis c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Gros party en vue avec notre 100e. Bye tout le monde.
Bye-bye.
Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzsprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!